Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
C'est une dernière ligne droite, Serge Abad-Gaillardeau, pour défendre la vie du début à la fin. C'est ce que vous défendez en prenant votre plume en écrivant, service missionnaire aussi, en tant qu'écrivain depuis peu. Ce livre, Fin de vie, les manœuvres maçonniques pour le droit à mourir, paru aux éditions Pierre Tecky, termine par ce quatrième chapitre où vous donnez des exemples très divers et vous terminez, et on va y revenir et vous allez y revenir bien sûr, et ça sera aussi le cadeau de cette série sur Sainte Thérèse de Lisieux, sur différents parcours de fin de vie, très différents.
Oui, alors dans mon esprit, et il faut le préciser, il n'était pas question, et je l'explique, de faire des comparaisons. Le choix de chacun appartient à chacun, et je le respecte complètement, et nous devons le respecter. Mais je cite le cas de Madame Anne Berthe, qui était membre de la DMD et qui a choisi l'euthanasie ou le suicide assisté, je m'en souviens plus, je crois que c'est l'euthanasie en Belgique, et qui était atteinte de sclérose en plaques. Et il se trouve que par ailleurs, le frère Vincent-Marie de la Résurrection, qui était chanoine à l'abbaye de la Grâce, a été atteint de la même maladie, bien qu'il fût plus jeune qu'elle. Et les deux parcours sont fondamentalement différents. Anne Berthe, membre de la DMD, dont je rappelle qu'elle est une sorte de faunée de la franc-maçonnerie, elle a été créée par Henri Caillavé lors de l'échec de sa première tentative pour instaurer l'euthanasie. Donc, voilà, j'explique à quel point ça a été une réponse de manière un peu plus stratégique que de proposer une loi. Eh bien, Madame Anne Berthe a choisi, je dirais, le décès anticipé, puisque au moment où elle a voulu mourir, elle n'était pas encore atteinte de manière dramatique, comme l'a été le frère Vincent-Marie de la Résurrection. Eh bien, le frère Vincent-Marie, je l'ai rencontré à la Grâce, assez brièvement, mais suffisamment pour voir tout ce qu'il peut y avoir de lumière dans la foi, dans les yeux de ce chanoine. Ce jeune chanoine, complètement brisé par la maladie, mais dont je montre une photo, alors qu'il est sur un fauteuil roulant et à 6 mois de la fin, donc ça n'est pas neutre, avec un sourire parfaitement radieux. Ce chanoine nous a montré une leçon de vie, une leçon de foi. Pour moi, cet homme est un saint. Et je parle également de la fin de vie de Thérèse de Lisieux, pour qui j'ai une très grande dévotion, au point que je conseillerais à tous mes anciens frères francs-maçons d'ouvrir leur porte, la porte de leur cœur bien entendu, à la spiritualité thérésienne, parce que je ne doute absolument pas que s'ils le faisaient, ils seraient immédiatement convertis, et je serais le plus heureux de voir tous ces francs-maçons se convertir à l'amour de Dieu. Eh bien, Thérèse, après avoir souffert un martyr au moment de sa fin de vie, puisqu'on n'était pas dans les soins palliatifs au XIXe siècle, eh bien, son visage est parfaitement radieux. Ce qui est absolument incompréhensible, au point que le médecin qui a donc assisté au dernier moment de la vie de Thérèse, eh bien, disait que c'était un miracle, qu'après tout ce qu'elle avait souffert, elle ne pouvait pas avoir ce visage d'ange de manière naturelle. Et donc il y a une intervention divine. Alors je crois que Thérèse, qui a été, tout en restant sur place, une immense missionnaire, puisque le message de Dieu est passé à travers sa clôture au sein des Carmélites, eh bien Thérèse nous montre finalement que l'amour est plus fort que la mort. Alors c'est une phrase qui doit parler aux francs-maçons, parce que l'amour plus fort que la mort a été usurpé de la liturgie catholique et de la parole biblique pour être intégré dans des textes maçonniques. Eh bien oui, au sens des chrétiens, l'amour est plus fort que la mort, et Thérèse nous en fait la démonstration éclatante. Il n'y a pas besoin d'euthanasie, il n'y a pas besoin d'assassinat. Il suffit simplement d'adopter des médications qui existent. Il suffit simplement d'avoir du cœur et de la compassion pour nos frères et nos sœurs qui sont sur ces lits de souffrance, qui sont de véritables croix, étant précisé que la seule souffrance qui reste à cet instant de leur vie est une souffrance qui peut être spirituelle, puisque les médicaments soignent la douleur physique. Eh bien, cette souffrance spirituelle, je crois que la foi peut apporter une réponse. Et la présence humaine peut apporter une réponse. Je me souviens de mains que j'ai serrées longtemps dans ces moments-là, et je peux vous garantir que la dignité dont parle la franc-maçonnerie est d'autant plus présente que la main est chaleureuse. C'est-à-dire que lorsqu'on apporte son cœur dans une main que l'on tient, eh bien la personne n'est plus malade, la personne est vivante. Et dans cette poignée de main, il y a de l'amour, véritablement. Cet amour-là, on ne le trouve pas dans l'euthanasie. Il n'y a pas d'euthanasie charitable, je n'y crois pas un instant. Ça peut être une lâcheté devant la mort, ça oui. On peut refuser la mort, et ça s'appelle tout simplement du suicide. Mais c'est une offense contre l'esprit.
Est-ce que peut-il y avoir aussi derrière cette euthanasie une toute-puissance aussi de braver la mort ?
Bien, nous avons un ami, entre guillemets, qu'on appelle communément l'ennemi, dont l'objectif principal est de distribuer la mort et de détruire la création. Nous ne devons pas le laisser faire, nous devons lutter. Et je sais pertinemment que nous devons demander aux derniers instants de notre vie, au Seigneur de nous donner la force de passer ce passage avec l'aide de Marie, et non pas avec l'aide d'une infirmière qui tiendrait une piqûre létale. La piqûre létale est une fuite. La mort est un instant mystérieux, comme la vie est un événement mystérieux. Ce mystère, c'est le mystère de Dieu. En faisant une piqûre à quelqu'un qui va mourir, on fait disparaître ce mystère. D'autant plus que ce passage peut se faire sans douleur, et dans l'accompagnement spirituel le plus intense. Ça, je peux en témoigner, et j'invite les personnes qui auraient le cœur de le faire à aller accompagner, que ce soit en tant que laïc, que ce soit en tant que croyant, à aller tenir la main d'une personne qui meurt et lui dire simplement au moment où elle part « Je t'aime ».
Signé pour l'euthanasie, c'est la signature visible de l'ange séducteur luciférien. Cette signature pour l'euthanasie ?
Il est toujours présent, et avec l'euthanasie, il tient une arme extraordinaire, d'autant plus qu'il touche notre sensibilité et notre peur. Nous avons tous peur de mourir, parce que lorsque nous ne sommes pas croyants, nous sommes devant l'inconnu. Et lorsque nous sommes croyants, nous sommes devant l'inconnu également. On ne sait pas quel va être le jugement de Dieu. Est-ce que je me suis bien comporté ? Est-ce que j'ai été suffisamment chrétien ? Est-ce que j'ai été un homme de bien ou une femme de bien ? Bien, nous l'ignorons, seul Dieu connaît le fond de notre cœur, nous-mêmes nous ne le savons pas. Devant cet inconnu, il nous reste une seule chose, l'espérance. Cette espérance, c'est le Christ qui nous la porte, et il nous le montre. Qu'y a-t-il de plus horrible qu'une croix ? Et pourtant, elle devient le symbole du salut. Qu'y a-t-il de plus horrible qu'une personne qui est sur un lit et qui voit arriver sa mort ? Et pourtant, dans la présence de ceux qui sont autour de cette personne, dans l'accompagnement que nous pouvons avoir vis-à-vis d'elle, le Seigneur est présent, Marie est présente. Ce que je crois sur le fond de ce débat, c'est que la franc-maçonnerie ne peut pas comprendre ce passage comme pourrait le comprendre un catholique. Donc j'invite les frères francs-maçons, je pense des frères entre eux, pour moi ce sont mes ex-frères, mais j'invite les francs-maçons à lire Thérèse de Lisieux. J'invite les francs-maçons à se rapprocher de la parole de Dieu, de la véritable parole de Dieu. Ils comprendraient ce qu'est la compassion. Il ne s'agit pas de faire de grands discours sur le bonheur de l'humanité, mais il s'agit de rechercher ce qu'est le salut de l'âme. Le salut de l'âme ne peut pas passer par l'assassinat. Est-ce que cet assassinat deviendra, comme pour l'avortement, un droit, une obligation ? C'est-à-dire que demain, celui qui est en fin de vie ou qui simplement en a assez de vivre, comme c'est le cas dans un certain nombre d'exemples que je cite dans mon livre, imposera à un médecin qui ne sera pas forcément d'accord de lui faire une piqûre létale. Il y a un débat qui est essentiellement anthropologique, qui est moral également, que nous ne devons pas éluder. L'ennui, et j'en terminerai là-dessus, sur cette question, c'est que la franc-maçonnerie joue derrière un masque. Et c'est ça qui est dangereux. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre. Il ne s'agit pas de stigmatiser qui que ce soit ou de montrer du doigt telle ou telle doctrine. Les hommes sont libres. Dieu nous a créés libres, ça n'est pas pour rien. En revanche, libre de mentir, ça appartient au diable. Et donc je veux montrer la réalité de ce qui se cache derrière ces doctrines mortifères.
Je conseille, pour approfondir un peu cette série que nous vous avons proposée dans Des clés pour vivre, la lecture de ce petit ouvrage, bien dense, mais qui donne quelques réponses et un éclairage autour de cette fin de vie. Et en sous-titre de ce livre, Les manœuvres maçonniques pour le droit à mourir, votre troisième livre paru aux éditions Teki. Nous avons pu entendre au cours de ces entretiens de la semaine, Serge Abad-Gaillardot, et je vous remercie de ce déplacement et de toutes ces interventions, que vous préparez aussi l'écriture d'un quatrième ouvrage. Mais on n'en saura pas plus, c'est le secret.
C'est un secret. Je vous remercie en tout cas de m'avoir invité et j'espère que nombreux seront les personnes qui vont non pas lire mon livre, ça n'a pas d'intérêt commercial ni financier, mais se documenter un peu plus sur les raisons qui se cachent derrière la doctrine de mort qu'est l'euthanasie.
Merci Serge Abad-Gaillardot. Au revoir.